Ok, oui, on se lance ensemble pour les deux prochaines heures dans le Point Max à Boulevard 102.1. C'est ma dernière de la semaine parce que demain, c'est une petite journée de congé. Je m'en vais à Montréal ce soir du côté du Centre Bell pour une soirée qui va rocker en tabarouette avec Falling in Reverse et Hollywood Undead, entre autres choses. Par contre, les amateurs de rock de Québec n'auront pas à aller bien loin pour avoir du bon rock à soir. Juste à vous diriger du côté de l'Agora, c'est le début d'envol et Macadam, puis d'ailleurs on va en parler dans les prochains instants. Le temps de vous dire que vous pouvez me rejoindre en studio, peu importe les raisons, au 418-971-1021 par texto. Il y a toujours le Twitch aussi pour regarder de quoi j'ai l'air dans ma solitude du studio. BLVD barre en bas FM, ou solitude, oui, en personne. Toutefois, vous êtes là, autant par texto que sur Twitch, et j'ai des collaborateurs, des invités qui seront là par téléphone aussi dans la prochaine heure, avant qu'Audrey Pinchot à 11h vienne s'installer pour son segment Open Mic. Il y a Pascal CV qui va passer faire son tour aussi vers la fin du show. Et je vous parlais de rock ce soir du côté de l'Agora du Port de Québec. Ça va en être une méchante belle. Et ce qui est le fun aussi dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Début d'envol et Macadam, la première soirée qui est gratuite du côté de l'Agora. Et pour en parler au bout du fil, François Valenti, qui est de l'organisation du festival Envol et Macadam. François, ça va bien?
Ben oui, toi aussi, Max.
Yes, très, très bien. J'imagine que quand on a travaillé aussi fort sur un événement comme Envol et Macadam tout au long de l'année, quand ça s'en vient dans quelques petites heures, la fébrilité est dans le tapis?
Ah oui, ben c'est le jour J. Mais oui, on a travaillé très fort et cette année, on a vraiment préparé une super édition. Et là, en plus, je regarde la météo puis je me dis, bon, OK, merveilleux, on va avoir du beau temps tout le week-end. Alors, oui, tu l'as dit, on est très fébrile.
Première soirée qui est gratuite à l'Agora ce soir. Je l'ai répété, je pense, 4 fois dans la dernière minute parce que c'est une nouveauté, si je ne m'abuse, puis c'est super cool. Mononcle Serge et Anonymous, entre autres, en tête d'affiche. Comment cette soirée gratuite-là s'est concrétisée? Parce qu'à base, je pense que même quand on a annoncé le festival, c'était même pas supposé être gratuit.
Non, en fait, même dans les autres années, on commençait toujours on a toujours commencé le jeudi le festival, mais habituellement on commençait ça avec des shows en salle le jeudi, puis après ça on commençait des shows le vendredi et samedi à l'extérieur. Cette année, on a décidé de rajouter une troisième soirée extérieure le jeudi. Et là, oui, comme tu l'as dit au début, on l'avait pas dit, on l'a annoncé comme ça. Puis là, c'est en parlant un peu parce que c'est dans les objectifs aussi de la ville de Québec de promouvoir l'accessibilité aux citoyens de la ville à des activités. Nous, on se disait aussi, il y a peut-être des gens qui sont peut-être frileux de venir en vol et macadam, qui ont peut-être jamais essayé, qui se diraient, ben peut-être que si c'est gratuit, j'irais essayer ça, en vol et macadam. Alors, pour plein de raisons, pour toutes ces raisons-là, en fait, on a décidé de mettre ça gratuit. C'est une soirée québécoise, 100% québécoise. Évidemment, ça veut pas dire que c'est québécois qu'on va faire, que ça va être Paul Piché, on s'entend, là? Alors, tu l'as dit, Mononcle Serge, Anonymous, Voivode, on ressort d'outre-tombe un groupe qui s'appelle JFK, qui donne dans la musique un peu plus hardcore, et on commence ça avec le groupe de Québec, Enfants Sauvages, qui nous... moi, je suis même pas au courant de ce qui va se passer, mais la chanteuse me dit, François, tu créeras pas à ça l'intro qu'on va faire, la mise en scène qu'on va faire pour le show d'ouverture à 17h. Alors, j'ai l'impression que ça va brasser pas mal ce soir à l'Agora.
Ouais, tu l'as dit, il va falloir être là de bonne heure pour voir l'ouverture d'Enfants Sauvages parce que c'est à 17h que ça se passe à l'Agora, 16h30 l'ouverture des portes. Petite question, est-ce que on s'attend peut-être à manquer de place à soir vu que c'est gratuit ou tu sais l'Agora c'est assez grand puis on peut y aller sans trop se stresser?
Je le sais pas. En fait, depuis qu'on fait les spectacles Envoi les Macadam à l'Agora, on n'a jamais fermé le site. Alors, évidemment, ce soir, on donne quand même priorité d'entrée à ceux qui ont acheté des passeports dès le début du festival. Moi, je m'attends à ce que ça soit pas mal plein. Est-ce qu'on va devoir fermer le site à une heure précise, un moment donné, quand ça va arriver, je sais pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, mais le site de l'Agora est quand même assez grand. Puis, tu sais, de la manière qu'on a aménagé le site, il y a vraiment de la place pour rentrer beaucoup de monde. Alors, ça serait un beau problème, pour vrai, pour moi, là. mais je crois que ça va être, il va y avoir beaucoup de monde. Est-ce qu'on va devoir fermer le site? Je peux pas le dire encore.
On parle beaucoup, évidemment, des soirées à l'Agora parce que les grosses têtes d'affiche, les gros noms, généralement, c'est pas mal là qu'ils sont. Cela dit, il y a du stock super intéressant dans la programmation, aussi dans d'autres salles. Puis quand je dis d'autres salles, là, c'est un peu partout à Québec jusqu'à Charlebourg. C'est important pour vous de faire ça, de, oui, avoir des grosses soirées à l'Agora, mais d'offrir une offre qui est très diversifiée dans beaucoup de salles un peu partout?
Ben oui, pour ne serait-ce que pour promouvoir aussi les diffuseurs de ces salles de spectacle là qui à l'année longue promouvoient la musique émergente, la musique alternative dans tous les styles. On trouve ça important de collaborer avec ces diffuseurs là, ces salles là, et ça nous permet aussi de présenter d'autres styles musicaux, parce que tu sais, les gens souvent ils pensent qu'en vol les macadam c'est punk rock, metal, hardcore, puis que c'est ça notre niche. Vous avez quand même un peu raison, mais quand même, bon, cette année, regardez, ce soir, on a une soirée du côté de la Source de la Martinière sous le thème de la musique folk. On est loin, loin, loin du métal. Samedi soir, à la Source de la Martinière aussi, on présente une soirée de rap francophone avec Mad Mike, Cogité et Détrac. On est dans un autre style musical complètement. Alors, notre but, c'est de représenter la musique alternative dans son sens le plus large, et évidemment de promouvoir et de collaborer aussi avec les promoteurs et les salles de spectacle diverses dans la ville, et aussi de prolonger le party aussi, parce que tu sais, bon, faut le savoir, à l'Agora, les spectacles doivent finir à 22h30. C'est pas juste pour envoyer les macadam, c'est à l'année longue, c'est une règle de la ville. Alors, tu sais, à 22h30, il y en a qui ont encore assez d'énergie pour aller festoyer après dans les autres salles de spectacle. Alors, on veut comme un peu prolonger le plaisir à chaque soir.
La vente de billets, elle va comment cette année?
Elle va très bien, même, je te dirais, moi, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, là, mais on était beaucoup en avance sur celle de l'an passé. Puis l'année passée, ça a été quand même une très bonne édition, là. Fait que je m'attends, puis je pense qu'aussi, là, tu sais, la météo fait son effet aussi dans les derniers jours avant le festival. Les gens, des fois, attendent un peu à la dernière minute, voir le temps qu'il va faire. Puis là je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Tu sais, à soir, pour vrai, là, il n'y a pas d'excuse de ne pas venir en voler macadam. Il fait beau, c'est gratuit, il y a plein de bons groupes. Je pense qu'il faudrait... Faut pas aimer la musique pour être là à soi.
Je pense qu'on a l'image que c'est rendu très difficile de vendre avec la quantité de shows, de festivals qu'il y a juste dans la région. Mais si on élargit un peu partout au Québec, en fin de semaine, il y a même le festival Phono par la gang de Bleu Feu qui se tient en même temps qu'en va les macadam. Mais c'est tellement deux crowds différentes qu'en bout de ligne, il y a peut-être quelques personnes qui sont un peu mêlées. Puis j'en fais partie parce que j'aime la musique beaucoup au sens large. Mais que... En bout de ligne, les crowds, c'est différent, fait que la vente de billets peut aller bien pour tout le monde.
Ben, puis il faut dire, tu sais, en vol et macadam, là, ça fait quand même 29 ans qu'on existe.
Ouais.
Au fil du temps, on a développé. Moi, je dis toujours, en vol et macadam, c'est une famille de dans l'équipe de production puis dans l'organisation, mais c'est aussi une famille de festivaliers. C'est le dernier, bien souvent, c'est le dernier festival estival de l'été, là. C'est notre dernier moment de spectacle extérieur pour bien des gens. Alors, nous, on a des festivaliers qui reviennent année après année, peu importe la programmation, peu importe ce qu'on met sur la scène, que ce soit plus punk ou metal ou hardcore, ou peu importe les styles. On a vraiment une base fidèle de festivaliers qu'on appelle notre grande famille. Alors, on a cette chance-là. Je pense que aussi c'est dû au fait que ça fait longtemps qu'on existe puis qu'on traite bien nos festivaliers aussi. Je pense que l'expérience en vol et macadam a fait ses preuves au fil des dernières années. Alors, on a de moins en moins de difficultés à vendre des billets au fil des années. Mais bon, on prend personne pour acquis, là. Je suis pas en train de dire ça. Mais oui, il y a une grosse offre. Il y a Saint-Tite aussi en même temps. Il y a plein de festivals en même temps ce week-end-là. Mais bon, je pense qu'on réussit tous à tirer notre épingle du jeu. Puis moi, ce que je dis, c'est peu importe le festival où vous décidez d'aller en fin de semaine, allez dans un festival, encouragez la musique, C'est ça le plus important.
En terminant, justement, ça peut peut-être encourager les gens à se rendre au festival Envol et Macadam. Je rappelle qu'on parle avec François Valenti qui est dans l'organisation, tout ça. Si toi personnellement, là, un groupe à ne pas manquer dans les trois prochains jours à Envol et Macadam, ce serait lequel?
Eh bien, moi, je suis un gros fan de Streetlight Manifesto qui sont là samedi soir. Je suis pas tant un fan de musique ska dans la vie, mais Streetlight Manifesto, pour moi, c'est next level. C'est quelque chose de plus grand que le style de musique qu'ils font. C'est vraiment des musiciens de qualité. Mais on peut pas passer à côté de la présence tout de suite après eux de The Interrupters. C'est un des groupes qui était le plus demandé sur nos réseaux depuis les dernières années. Je crois que la soirée du samedi va être vraiment magnifique. Ça va être festif. C'est de la musique très rassembleuse. La soirée Streetlight Manifesto Interrupters, moi, pour moi, c'est vraiment un must. Mais bon, je veux pas faire de jaloux. Il y a tellement de bons shows à voir en fin de semaine. Demain, Face to Face, Pennywise aussi. Il y en a pour tous les goûts, puis il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite à aller sur le site envolemacadam.com pour tous les détails de la programmation.
Yes, François Valenti, je te laisse aller. D'après moi, t'as comme une pas pire journée aujourd'hui.
Oui, ça va être. J'aurai plus de voix à la fin de la soirée.
Salut, bon festival.
Merci, Max.
On parlait de The Interrupters. She's Kerosene, c'est notamment une toune que vous pourrez entendre samedi soir. Non, c'est vrai que le ska est un style de musique tellement rassembleur. Là. Dans la famille du punk, mais particulièrement le ska, je veux dire, tu peux pas être joyeux. Fait que François l'a dit, tu sais, oui, il envoie les Macadam en fin de semaine. Ça commence ce soir, show gratuit du côté de l'Agora jusqu'à samedi. Il y a Phono en même temps, les mêmes dates. Puis tu sais, ce que François dit, c'est aller encourager un festival. T'sais, c'est le fun d'en avoir. Si t'es un fan de musique en fin de semaine, puis oui, il y a des coûts à ça. Quoique ce soir, non. Là, ce soir, pour vrai, de vrai, t'as pas d'excuse de pas aller à Envol et Macadam. Mais en général, si t'as un petit budget, là, tu dis, hey, c'est la fin de l'été, fait beau en fin de semaine, ben on va aller encourager un festival qu'on a, que ce soit Phono, que ce soit Envol et Macadam, que ce soit même dans le coin de Saint-Tite avec le populaire festival Western. Il y a du stock, puis on a la chance d'être très gâtés à Québec. Profitons-en. 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio en tout temps. Présentement, à la météo, c'est un 19 degrés à Québec. On va monter de quelques degrés au courant de la journée, là, mais pas grand-chose. C'est un genre de 21 qu'on va aller chercher au maximum avec 60% de possibilité d'averse. Mais présentement, je regarde dehors, là, puis elle va se tasser. Ce soir, cette nuit, 6 petits degrés, fait que si vous revenez tard justement d'un festival, ça se peut que la petite laine soit nécessaire. Puis je regarde les prochains jours, là, c'est que du gros soleil avec des 21-22. Ça, c'est le moment de l'année qui est le fun. Ces journées-là à 21-22, gros soleil, le petit vent, c'est parfait. Puis c'est parfait pour des festivals, fait qu'on va pouvoir en profiter tout au long du week-end. Il y a un dossier d'actualité qu'on n'a pas le choix de traiter dans le show aujourd'hui. Puis je sais qu'on a déjà quand même beaucoup parlé ce matin avec Jeff, avec Marceau, avec Denis également. Ce qui s'est passé avec Charlie Kirk du côté des États-Unis dans les dernières heures. C'est hier après-midi que Charlie Kirk donnait une conférence avec son organisation et il a été atteint par balle. Ceux qui ont vu malheureusement la vidéo... vous avez rapidement compris, j'imagine, tout comme moi, que les chances que Charlie Kirk s'en sorte, c'était assez mince, merci. Et finalement, la nouvelle qui a été confirmée, puis il y a des commentaires absolument déplorables qui ont été partagés par certains sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pour mon dire que jamais, au grand jamais, tu peux avoir l'impression que la mort de quelqu'un était méritée pour de simples idées politiques. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que généralement, j'ai l'impression que majoritairement, on s'entend là-dessus. Puis il y a des démocrates qui ont réagi en masse dans cette voie de pensée-là. Évidemment, des républicains aussi, parce que faut le dire, Charlie Kirk, ben, c'est un gars qui était plus à droite. On parle de droite religieuse. Certains diront extrême droite, oui, dans certaines idées. Mais de se réjouir de la mort de quelqu'un pour des idées, pour moi, ça ne passe pas. Et on en parle dans les prochaines minutes avec le chroniqueur politique Josh Sinoski. Radio Boulevard. 10h17 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, c'est au 418-971-1021 par texto. J'aime bien toujours vous inviter aussi à réagir, sur le Twitch de Boulevard 102.1 où il y a toujours une belle communauté qui réagit en direct à ce qui se passe sur nos ondes. Puis en plus, ben, vous pouvez me voir en studio, seul au monde. Mais seul au monde, ça, c'est juste directement en studio parce que, à l'instant, on va rejoindre Josh Sinoski, chroniqueur politique. J'ai vu passer dans les dernières heures le texte qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux par rapport à l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur de droite du côté des États-Unis. Josh, ça va bien?
Oui, salut Maxime.
Je pense que, puis je le disais d'entrée de jeu, je pense que tu pouvais m'entendre là, il y a quelques secondes quand je mentionnais que, de mon point de vue, qui semble assez partagé, tu ne peux pas te réjouir de la mort de quelqu'un pour ses opinions politiques. Puis là, on n'est pas dans un gars qui a commis des crimes horribles. On est dans un gars qui a partagé ses idées. Puis c'est un peu le sens du texte que tu as partagé sur tes réseaux dans les dernières heures. Pour toi, la première chose qu'on doit voir dans l'assassinat de Charlie Kirk, ben, c'est une tragédie humaine.
En effet, c'est cruel, c'est sauvage. On parle d'un être humain qui s'est fait assassiner froidement d'une balle dans la jugulaire. Comme tu as dit, on ne parle pas d'un criminel, on ne parle pas de quelqu'un qui incite à la violence, on parle d'un gars qui allait dans les campus pour jaser avec les jeunes, dialoguer. C'est un père de famille qui vient de mourir. C'est un mari qu'une femme vient de perdre. Un père de deux jeunes enfants. Moi-même, le gars allait avoir 32 ans, j'ai 32 ans. On dirait que ça vient me tordre le cœur qu'hier, je pensais à ces deux jeunes enfants, 1 an puis 4 ans. Moi, j'ai 2 mois, 3 ans et 5 ans, puis je trouve ça épouvantable.
Ce qui est arrivé hier, sans dire qu'on pouvait le voir venir, parce qu'on veut pas voir venir des tragédies comme ça, mais ça part quand même de quelque part. On le voit aux États-Unis depuis un bout de temps que ça bouille. Puis il y a deux côtés. Il y a deux côtés dans lesquels on se rend dans les extrêmes. Puis tout ça mène à un climat de haine.
Exactement. On est dans un climat très, très clivant et très hargneux au niveau de la politique américaine. Mais même ici au Québec, bien qu'il n'y a pas le même enjeu avec les armes à feu, on est toujours dans le « us versus them ». On est toujours dans la polarisation et dans le « si quelqu'un ne pense pas comme nous autres, on va le canceller, on va le démoniser ». On prend l'exemple de Pierre Poilievre ici ou Éric Duhaime. On dirait que la droite ne peut jamais rien faire qui a du bon sens. Et ça, ce climat-là que les médias traditionnels exacerbent et qu'on voit aussi, les médias étant à l'image de la société, sur les médias, sur les réseaux sociaux, il y a une frange assez radical de la société qui fait juste amplifier ces choses-là. Puis on l'a vu hier, la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Même aux États-Unis, on voyait Matthew Dodd de MSNBC qui disait quasiment que c'est de la faute à Charlie Kirk si c'était arrivé, qui sous-entendait que peut-être que c'était quelqu'un dans la foule, un de ses supporters, qui aurait tiré avec son arme de façon accidentelle, comme si les supporters de Kirk, c'était des hurluberlus. Ça n'a aucun sens. Ça a été entendu, d'ailleurs, ce gars-là, heureusement, mais CNBC l'ont congédié hier soir. Et c'était la chose à faire. À un moment donné, il y a des limites, là. Il faut arrêter de toujours mettre la faute, dire c'est de la faute à Trump, c'est de la faute de ci, de cela. À un moment donné, il faut regarder les faits. À force de toujours dire qu'un bord dont faisait Charlie Kirk, dire que c'est de l'extrême droite, c'est suprémaciste blanc, des Trumpistes, MAGA, etc., etc., bien, à force de faire cette diabolisation-là, on déshumanise la personne. Et quand tu as déshumanisé la personne, ça devient plus facile de passer à de la violence. Fait que c'est un peu, c'est tellement pathétique, mais c'était un peu prévisible qu'à un moment donné, quelque chose de même allait arriver à force de dépeindre quelqu'un de cette façon-là.
Puis moi, je vais le dire, là, Charlie Kirk, c'est quelqu'un avec qui je partage pas beaucoup d'idées. T'sais, moi, tout ce qui est être anti-avortement, j'embarque pas là-dedans, mais pas du tout. Tout ce qui est par rapport aux armes à feu, c'était pas des idées de Charlie Kirk qui me rejoignaient. Par contre, quand je voyais passer ce gars-là sur les réseaux sociaux, sa façon de faire les choses, je la trouvais vraiment très intéressante. Pour ceux qui l'ont pas nécessairement entendu dans les dernières heures, là, ce qu'il faisait, lui, beaucoup, c'est se rendre sur des campus directement aux États-Unis. Des écoles qu'on associe beaucoup à des mouvements de pensée de gauche, tu sais, les jeunes étudiants qui sont plus à gauche. Puis lui, Charlie Kirk, allait un peu se jeter dans la gueule du loup, puis son gros slogan, c'était « Prove me wrong ». Et il invitait les étudiants à venir se présenter devant lui et y enclencher avec eux des discussions. Et Charlie Kirk, c'est un homme qui est excessivement intelligent, un orateur hors pair. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, des fois, veut pas, il y a des jeunes qui arrivaient devant lui très, très peu préparés, puis ils se faisaient ramasser, ils se faisaient remettre à leur place parce que Charlie Kirk était préparé, était très intelligent. Mais là où ça devenait le plus intéressant, c'est quand des jeunes arrivaient très préparé devant Charlie Kirk. Et là, ben, les deux échangeaient. Puis, dans les échanges, tu peux tellement grandir. Puis, à la base, ça vient ajouter à la tristesse de la chose. C'est ce qu'il faisait dans la vie, Charlie Kirk. Il jasait, il discutait. Puis, c'est ça qui a mené, de ce qu'on comprend, puis on n'a pas encore toutes les informations, faut faire attention, mais à son décès, alors que c'est un gars qui faisait juste jaser puis ouvrir les portes de discussion.
Absolument. C'est ça qui est terrible, parce que l'héritage que ce gars-là nous laisse, là, c'était un héritage de dialogue. Puis effectivement, je reprends ce que tu disais tantôt, moi non plus, je n'étais pas d'accord avec tout ce que Charlie Kirk disait. Puis en fait, ça ne serait pas normal si on était toujours 100% d'accord avec quelqu'un
Exact.
d'un bord ou de l'autre. Ce qui fait qu'une société est vivante et qu'une société évolue, c'est le choc des idées et c'est la multiplicité des idées et la nuance des idées. Puis Charlie Kirk, c'est ça qui apportait, comme tu l'as si bien dit, dans ces rassemblements-là. Alors, le gars est en train de faire avancer la société, puis comme j'ai aussi écrit, il y a une certaine forme d'endoctrinement qui s'est installée dans plusieurs campus universitaires. On l'a vu à bien des égards dans les campus universitaires américains. Puis lui, en ouvrant le débat, en ouvrant la discussion, j'ai vu des séquences absolument incroyables avec Charlie Kirk. Comme tu disais, des jeunes qui arrivaient préparés, d'autres qui ne l'étaient pas, qui avaient juste de la haine. Et la façon qu'il leur répondait était juste incroyable. Tu dis, c'est ça que la société a besoin. Et pourquoi vouloir? On dirait que peut-être que vu que quelqu'un n'était pas capable d'en venir à bout au niveau des idées, ils décident de faire taire sa voix, mais ils vont faire l'effet inverse parce qu'il va juste susciter un million d'autres, Charlie Kirk.
Exactement, c'est un peu ce qui ressort dans les dernières heures, que ce qui s'est passé, ben, ça va venir en réveiller plusieurs autres, en animer plusieurs autres, puis là on a un peu la crainte de voir jusqu'où ça va mener, on va espérer que ça reste au niveau des idées, puis que, mais on peut en douter malheureusement, là. Espérons juste que ça ne s'exacerbe pas trop. Maintenant, À quel niveau, justement, cet appel-là à un réveil collectif qu'on semble voir dans les dernières heures par rapport au fait qu'on va devoir là, allumer sur ce qui se passe, puis que c'est dangereux, puis que jaser d'idées, c'est important. Tu vois ça comment pour l'avenir?
Il y a deux façons de le voir, je crois. Il y a une certaine crainte de voir la situation dégénérer et que la violence appelle la violence. C'est pas là qu'il faut que ça aille. À date, ce que je vois sur les réseaux sociaux de personnes assez influentes au niveau de la gauche, comme dans la droite, c'est qu'il semble avoir un appel à arrêter la violence puis à se parler. Puis c'est là qu'il faut que ça aille. Toutes les personnes influentes de part et d'autre doivent s'élever au-dessus de la mêlée puis dire là, c'est assez. C'est assez la violence politique. On va se parler, on va débattre, on va arrêter de démoniser l'autre. Puis ça vaut au niveau de la droite comme au niveau de la gauche. Puis je fais un retour plus haut au niveau de comment des gens ont réagi hier. Moi, je trouve ça absolument grave, puis il va falloir que ça arrête, là. Il n'y a personne qui peut se réjouir de la mort de quelqu'un d'autre. Il faire des danses sur TikTok, estifier, ouvrir le popper le champagne à cause de ça. Ça n'a aucun sens, là. On ne peut pas se réjouir de la mort d'un adversaire politique. Ça aurait été quelqu'un comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders aux États-Unis, ça serait arrivé hier, j'aurais été autant sur le choc.
Ah ben oui,
Quand
absolument.
on est un vrai démocrate puis qu'on croit à la liberté d'expression et au dialogue, on ne peut pas se réjouir de la mort d'un adversaire. Fait que là, il va falloir qu'on retourne, on retrouve notre humanité, là, puis qu'on se rappelle qu'on est dans un débat d'idées. Ce n'est pas une question existentielle. Il va falloir qu'on fasse que ce que Charlie a dit à plusieurs reprises et de plusieurs façons, la violence commence quand on arrête de dialoguer. C'est parce que quand tu arrêtes de dialoguer, qu'est-ce qui arrive? Tu te radicalises. On l'a vu pendant la COVID, ça a été un exemple tellement éloquent à quel point lorsque tu un peu limites le débat et que tu imposes une façon de faire ou de penser, ben, il y a deux camps qui se forment, ceux qui se conforment et ceux qui sont contre. Et ça cause des extrêmes dans les deux cas. L'extrême est jamais bon. Moi, j'ai toujours pour mon dire que le bon sens se trouve quelque part au milieu.
Ouais, puis par rapport à ça, moi, j'ai tellement trouvé ça triste dans les derniers hasards. T'sais, hier, j'ai juste mis une petite story sur les réseaux sociaux pour dire, hey, personne mériterait de mourir pour ce qu'il pense au niveau politique. Puis hier soir, j'ai eu une réaction à ça, une amie qui m'a répondu que ça avait pas de bon sens, puis qui a carrément quasiment coupé les ponts avec moi parce que je trouve que ça a pas de maudit bon sens. Autant je partage pas les idées du gars, autant je trouve que ça a pas de bon sens. Puis j'ai comme fait, bon, ben, Colin, cette personne-là, ben, est fermée à ça, puis veut pas peut-être avoir d'ouverture à faire évoluer sa pensée. Fine. Puis de l'autre côté, ce matin, j'ai quelqu'un qui a répondu à cette story-là, à cette réaction-là que j'ai eue, puis qui m'a amené certains points. Tu sais, okay, on avait dit rest in peace à un gars comme ça qui prônait les armes, qui trouvait que c'était normal d'avoir des décès pour protéger notre droit à l'arme à feu aux États-Unis, tout ça. Puis avec cette personne-là, ben, Colin, on a dialogué. Puis j'y ai dit, hey, tu sais-tu quoi, ce point-là que t'as est bon. Sais-tu quoi, ce point-là, je suis moins sûr, mais je comprends ça vient d'où. Puis ma pensée a évolué par rapport à comment j'aurais pu mieux formuler ma pensée, puis certains. Puis pourquoi? Parce qu'on a jasé. Alors que la personne, hier soir, qui a juste réagi à chaud, puis que ça s'est venu heurter dans ses valeurs, ben on n'a pas pu avoir de discussion, puis les deux, ben on est resté campé dans notre position puis dans ce qu'on pensait à la base. Moi, j'aurais été super ouvert, puis j'ai essayé d'initier une discussion, puis ça n'a pas marché. Alors que ce matin, j'ai fini cette courte discussion-là avec cette personne-là, puis j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Ma pensée a évolué. » Puis c'est important, ça, puis ça sert à ça, le dialogue. Sinon, on va tous rester dans nos coins. Puis comme tu disais, Jocinoski, ben, on va se radicaliser peu à peu puis s'en aller vers les extrêmes parce qu'on se jase pas.
Exactement, exactement. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se rappelle qu'on est dans un débat d'idées. C'est pas une question existentielle ici, là. Je veux dire, souvent, j'ai pour mon dire qu'il y a autant de façons de voir les choses que d'être humain sur la planète, hein. Ben, si on se parle pas, là, à un moment donné, on va se camper dans des positions où ce qu'on va être convaincu que nous autres, on a raison. Écoute, je fais un petit aparté personnel. Moi, j'ai été victime d'un criminel dans une secte. J'ai connu à quel point ça amène loin dans la dérive lorsque tu te fais pas challenger, lorsque tu restes dans ta chambre d'écho. C'est terrible où ce que ça peut amener. Ben, il faut qu'on arrête. Ben, regardez, ce que j'ai vécu, ce que Charlie Kirk a vécu, à mon sens, à moi, c'est infiniment pire. Ça l'a amené au meurtre de quelqu'un. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se rappelle qui on est. Puis il faut se rappeler aussi qu'il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Et il faut que notre société, d'une certaine façon, retrouve sa boussole morale. Il faut qu'on revienne, là, tu sais, qu'on retrouve notre humanité, puis qu'on retienne la leçon importante de Charlie Kirk, qui est la plus importante de toutes. L'idée, c'est pas d'avoir raison sur tout. L'idée, c'est pas d'être d'accord avec quelqu'un sur tout. L'idée, c'est de se parler, c'est de débattre, puis d'assumer. Puis c'est correct d'avoir des convictions fortes puis de les assumer, mais parlons-nous, discutons, parce que c'est le même qu'on va faire avancer notre société, qu'on va devenir des meilleures personnes, puis qu'on va aller plus loin, puis qu'on va éviter de la radicalisation comme ça.
Josh Sinoski, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on jasait de l'assassinat de Charlie Kirk survenu hier du côté des États-Unis. Josh, on se reparle bientôt.
Yes, merci Maxime.
Au retour, on jase avec Michel Cetlacoué, qui est député libéral de Mont-Royal-Outremont et leader parlementaire du Parti libéral du Québec. On jase du remaniement d'hier des ministres de François Legault.
Le point de Max.
Il est 11h36 dans le Point de Max à Boulevard. J'espère que vous passez un merveilleux jeudi. Sous le soleil, pas mal que ça se passe, du moins pour l'instant, avec un 19 degrés, quelques possibilités d'averses au courant de l'après-midi. Mais si c'est le sacrifice qu'on a à faire pour se taper, quoi, au moins une semaine de juste du soleil avec des 21 puis 22, ben, je suis prêt à prendre quelques gouttes dans les prochaines heures parce que c'est ce qui semble s'en venir selon Environnement Canada, que du soleil dans les prochains jours. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021 par texto. Il y a aussi la communauté Twitch que vous pouvez suivre, BLVD, barre en bas, FM. Hier, le sujet, bon, qui devait être le sujet de l'heure jusqu'à temps qu'arrive ce qui arrive de très malheureux du côté des États-Unis, ben, c'était le remaniement ministériel de François Legault qu'on attendait beaucoup. Finalement, il y a plusieurs ministres qui sont restés exactement à la même place. Il y a quelques nouveaux ministres qui ont gagné la loterie et leur limousine. Mais généralement, il y en a qui trouvent que ça revient pas mal du pareil au même. Et pour en parler, elle est députée libérale de Mont-Royal-Outremont, leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Michel Sept-Lacoué, bonjour.
Oui, bonjour, Max.
Vous attendiez-vous à ce qu'autant de ministres conservent exactement le même rôle comme ça?
Oh, moi, écoutez, je suis pas très surprise de ce que j'ai vu hier et le constat que je fais, honnêtement, c'est que c'est trop peu, trop tard. Vraiment, là, on voit que ce sont essentiellement les mêmes personnes. C'est le même gouvernement qui est là depuis 7 ans. Bon, évidemment, il y a des changements de rôle. Il y en a 12 qui changent pas du tout. Quelques nouveaux, mais c'est très cosmétique. Puis, à mon sens, le remaniement va pas changer le fond des choses. Là, la CAQ est déconnectée, puis je pense qu'elle a déjà perdu la confiance de la population.
Mais justement, on aurait pu croire, avec ce qu'on voit dans les sondages dernièrement, les projections qui donnent littéralement, potentiellement, zéro siège à la coalition Avenir Québec aux prochaines élections générales, on aurait pu croire que François Legault allait comme essayer le grand coup, puis vraiment brasser les cartes, puis tu sais, rendu là, on n'a plus rien à perdre, puis on le laissait. Comment vous expliquez que finalement, on n'a pas changé grand-chose?
Non, il garde des personnes clés autour de lui. Encore une fois, c'est cosmétique. Il nous sert, comme mon chef Pablo Rodriguez l'a dit hier, il nous sert du réchauffé. Mais pourquoi il n'a pas fait des changements aussi importants? Ben, parce que peut-être qu'il y avait les options intéressantes, il n'y en avait pas à la tonne. Il garde sa garde rapprochée autour de lui. Il y a des gens qui sont très nationalistes et des gens qui considèrent solides au niveau de l'économie. Il fallait quand même qu'il se colle à ces messages de renouveau, qui pour moi c'est pas du renouveau. Mais quand il parle d'économie, quand il parle de réduire la taille de l'État, quand il parle de bureaucratie, tout ça, mais il est où, lui, depuis 7 ans? On dirait qu'il tire des constats au sujet de l'État, au sujet du Québec, comme s'il en parlait à la troisième personne, comme s'il n'était pas responsable. Tous ces problèmes-là, tout ce qu'il évoque, ben, ça fait 7 ans qu'il est à la tête du gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'il a fait pour changer les choses?
Le croyez-vous?
Comme vous dites, il est encore avec les mêmes personnes. Mm-hmm. C'est leur échec collectif. Alors, on a beau changer quelques sièges, c'est du pareil au même. C'est encore le même groupe qui va diriger le Québec et qui n'imposera pas du changement. Ils l'ont pas fait en 7 ans. Moi, je crois pas qu'ils vont le faire dans la prochaine année.
Mais le croyez-vous, là, François Legault, quand il dit « Là, j'ai compris que les Québécois ont pas aimé certaines décisions, puis là, faut assumer ces mauvaises décisions-là. Est-ce qu'il le croit lui-même qu'il a pris des mauvaises décisions ou il lance ça comme ça parce que ça va pas super bien puis lui, il continue de penser que toutes les décisions qui ont été prises, ben c'était les bonnes à ce moment-là puis que c'est juste de dire « Ouais, ben là, on va essayer au moins de dire aux Québécois qu'on se rend compte qu'on n'a pas été super bon. »
Ben on dirait qu'effectivement, je suis pas dans sa tête, là, mais je pense qu'il reconnaît que les choses vont pas bien. Mais là, il n'a que lui-même à blâmer. Là. C'est lui, encore une fois, qui est là depuis 7 ans. Hier, il a tiré les constats de l'échec de son gouvernement, de sa gouvernance. C'est lui qui est à la tête avec une équipe qui n'a essentiellement pas changé. Donc, vous me demandez, est-ce que je crois? Oui, je pense qu'il reconnaît que les choses vont pas bien. Il l'a dit. Là, maintenant, il faut se demander, Mais est-ce qu'il est capable de livrer des résultats pour les Québécois? Moi, j'en doute. Moi, je pense que les Québécois et les Québécoises n'ont plus confiance en lui. Pensez à toutes les mauvaises décisions qu'il a prises. Pensez au gaspillage de fonds publics qui ont mené à des déficits records, qui ont mené à la décote là, du Québec. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va aller emprunter, ça va nous coûter plus cher encore. Donc, ça va être encore plus difficile de redresser la situation. Hey, M. Legault, là, sa priorité des priorités, là, quand il est arrivé en politique, puis le message qu'il a martelé depuis des années, c'est pas que c'est l'éducation, sa première priorité. L'avez-vous entendu parler d'éducation hier? Non, pas du tout. Il est sur certains bons sujets, mais c'est beaucoup trop tard. Il semble confus, il semble en mode panique. Moi, ce que je retiens de tout ce que j'entends là, depuis des semaines, des mois, c'est un constat d'échec pour M. Legault.
Michel Sete-Lacoué, député libéral de Mont-Royal-Outremont, leader parlementaire du PLQ sur le remaniement ministériel. Je vous rappelle, c'est ça le sujet. Est-ce que Geneviève Guilbeault aurait mérité de perdre son rôle de ministre en lien avec le fiasco Saclic? Parce que là, il y a François Bonnardel qui, bon, même on ne l'associe pas directement à ça, mais les observateurs regardent ça un peu puis on se doute bien qu'il a été sacrifié en lien, entre autres, avec son rôle dans le fiasco Saclic. Geneviève Guilbeault aussi était là, puis a témoigné, puis ça n'a pas super bien sorti. Puis est-ce que vous auriez trouvé qu'elle aurait mérité de se retrouver sans limousine?
Moi, je suis étonnée qu'elle soit encore là. Écoutez, on suit tous les témoignages, les auditions à la commission Galant. Et il y a un mot qu'il faut retenir ici, imputabilité. Il doit bien y avoir quelqu'un qui doit être responsable de ce gaspillage de fonds publics. Rappelons-le, là, on parle de centaines de millions. Un projet qui est rendu à 1,1 milliard, plus de 500 millions d'argent public durement gagné, perdu. On a des ministres qui viennent dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne se souviennent pas, mais ils auraient dû savoir, et même le premier ministre est venu dire qu'il aurait dû savoir, ça aurait dû se rendre à lui. Mais qui est responsable à la fin? Monsieur Legault est toujours en train de pointer du doigt d'autres personnes. Il devrait se regarder le propre nombril et se rappeler de l'importance de la responsabilité ministérielle. Et dans une entreprise privée, là, un cafouillage comme ça, vous pensez qu'il n'y aurait pas des personnes qui auraient dû perdre leur poste? C'est incroyable qu'au gouvernement, on laisse passer un tel gaspillage de fonds publics et qu'une personne qui est à la tête d'un ministère, le ministère des Transports, qui est responsable de cette société publique, de cette société d'État qui est la SAC, reste ministre. C'est incroyable. Le principe de l'imputabilité, il est brimé ici.
Vous avez été conseillère municipale pour Ville-Mont-Royal de 2016 à 2021. De placer Mme Guilbeault aux affaires municipales, alors qu'il y a clairement des frictions avec quelques maires à travers le Québec de par son rôle passé au ministère des Transports. On a beaucoup parlé de financement de transports en commun. Et là, les frictions sont venues de là. C'est pas un peu étrange de la part de François Legault de la placer dans une position où elle aura Geneviève Guilbeault à travailler en étroite collaboration avec ses mêmes maires et mairesse-là?
Mais c'est un bon point que vous soulevez. Moi, ayant été élue municipale, j'ai le plus grand respect et j'apprécie énormément le rôle des élus locaux qui sont en première ligne, là, qui répondent quotidiennement aux citoyens, parce que les enjeux, les problèmes, les doléances, les revendications, tout ça est exprimé en premier lieu là, auprès de nos élus locaux, ceux qui sont près de nous. On se pointe à l'hôtel de ville et on parle pas juste uniquement de ce qui relève du municipal, on parle de plein d'enjeux. Mais ce que je veux dire, c'est que les élus municipaux méritent notre respect parce qu'en ce moment, ils doivent non seulement livrer des services municipaux puis rendre des comptes à leurs citoyens sur ce qui relève vraiment là, des services à la propriété, mais pensez au nombre de responsabilités grandissantes qu'ils ont sur leurs épaules, des enjeux sociaux dont le gouvernement du Québec est responsable. Le transport, l'itinérance, le logement, les changements climatiques avec les refoulements d'égouts, etc. Ils doivent répondre aux citoyens, à leurs citoyens. Ils portent sur leurs épaules ces responsabilités grandissantes. Et non seulement, ils n'ont pas le soutien financier adéquat qui vient avec cette responsabilité plus importante, ils se font traiter de quêteux. par le premier ministre du Québec. C'est comme ça qu'il les traite. Et là, il nomme Geneviève Guilbeault, qui déjà est, qui semble être en conflit, qui a des prises de bec. Alors, honnêtement, c'est pas prometteur en ce moment pour le monde municipal qui a besoin de tout notre soutien, notre appui et qui a besoin que le gouvernement du Québec ne se déresponsabilise pas de ses responsabilités là, au niveau de l'itinérance qui est rendu un fléau à la grandeur du Québec, au niveau de la crise du logement. Alors, moi, je trouve ça très surprenant, oui, qu'il l'ait nommé, mais bon, on va donner la chance au coureur. On va voir comment Mme Guilbeault va naviguer à travers tout ça. Mais disons que je suis pas sûre que l'accueil va être si chaleureux que ça au niveau des maires, mairesses et conseillers, conseillères municipaux.
On parle des maires et mairesses. Hier, l'équipe de Boulevard 101 dans le retour, Ravel dans le retour, avait Gilles Laulier, le maire de Lévis, en entrevue. Et vous êtes, Michel Cetlacoué, député libéral de Mont-Royal-Outremont. Ça m'amène à vous faire entendre un court extrait de M. Laulier qui semble en avoir contre les élus de Montréal. Vous devinerez que c'est en lien avec le troisième lien.
Et au fond, c'est la gang de ministres de Montréal qui a coulé le projet. C'est aussi simple que ça, comme ça s'est fait sous les libéraux. Mmh. C'est ça le problème. Alors, et au fond, pendant ce temps-là, écoutez, à Montréal, on refait les autoroutes, on prolonge les autoroutes, on refait le tunnel Hippolyte de la Fontaine. Ben écoutez, s'ils veulent le transport, si eux autres, ils n'en veulent pas de tunnel, puis ils n'en veulent pas de vieille autoroute, pourquoi qu'ils refont le tunnel Hippolyte de la Fontaine? Ça coûte quelques milliards de dollars.
C'est-tu vrai, ça, qu'à Montréal, vous voulez tout garder pour vous autres, puis que vous voulez rien nous laisser comme projet à Québec?
Non, pas du tout. Mais ce que j'aimerais dire, puis vous faites bien là de faire jouer cet extrait. Premièrement, Monsieur Laulier, moi je lui ai parlé dans la dernière année. Puis ce qu'il faut noter en premier, là, c'est un maire dynamique, mais qui se représentera pas, on le sait là, mais qui défend sa région, défend sa ville. Moi, quand je lui ai parlé dans la dernière année, elle s'est senti l'énergie au bout du fil, comme on vient de l'entendre. Sa ville est en croissance, sa ville est en développement. D'ailleurs, j'y étais là, moi, en début de semaine, j'étais là lundi dans le cadre de notre caucus précessionnel qui s'est tenu au lac Beauport, mais j'ai fait une tournée lundi matin à Lévis. Je me suis rendue à Lévis et ça se voit, là, qu'on voit, là, les unités qui sortent de terre, on voit à quel point c'est en développement. Alors, lui, il se dit, ben, je veux que les infrastructures suivent. Je veux qu'on continue, je veux que les jeunes familles continuent de venir s'installer à Lévis. Il y a des enjeux de mobilité, je veux des infrastructures de toutes sortes, incluant sportives, culturelles, etc. Il faut que ça suive. Quand on demande à des villes de se densifier, de se développer, ben, faut que le gouvernement du Québec les fonds suivent. Bon, une fois qu'on a dit ça, écoutez, le gouvernement du Québec, là, c'est pas, en tout cas, moi, ma vision, c'est pas ça du tout. Puis quand on va être au pouvoir, les libéraux, qu'on va revenir au pouvoir, on va pas gérer, on va pas mettre Montréal contre le reste du Québec, on va pas mettre les régions contre la grande ville, on va pas mettre Montréal contre Québec, etc. Mais en tant que fiduciaire des fonds publics, il faut penser à chaque investissement, mais il faut faire chaque investissement de façon prudente, puis il faut écouter la science, ou écouter quand même qu'on n'investisse pas l'argent public sans tenir compte de l'avis d'experts, d'études, de rapports. T'sais, on décide pas d'investir dans une infrastructure importante sans études.
Donc, vous restez contre...
Sans documents.
Vous restez contre le projet de troisième lien Québec-Lévis pour l'instant.
Nous, le troisième lien, on est clair. Mon chef Pablo Rodriguez a été clair. Il suffit à la science, au rapport de CDPQ Infra qui avait été commandé par le gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il y a des enjeux de mobilité à Québec? Est-ce qu'il y a des enjeux de mobilité à Lévis? Bien sûr. Je ne le renie pas, puis je vous l'ai dit, j'étais justement à Québec et à Lévis lundi, je les ai constatés moi-même. Mais écoutez, là, la CAQ, ça fait 7 ans qu'ils en parlent. Croyez-vous encore que la CAQ, le gouvernement de la CAQ, va livrer le troisième lien? Permettez-moi d'en douter.
Michel Cetlacoué, député libéral de Mont-Royal-Outremont et leader parlementaire du Parti libéral du Québec, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, merci à vous.
Bye-bye. Bye. intéressant d'entendre cette députée-là du Parti libéral du Québec, de la région de Montréal, sur ce qu'a mentionné hier à l'équipe du Retour Gilles Laulier, le maire de Lévis, qui ne semble pas porter dans son cœur les élus du coin de Montréal. Puis tu sais, là, j'ai passé cet extrait-là en particulier, mais je peux aussi vous faire entendre celui-là où Gilles Laulier mentionne pourquoi il voulait Bernard Drainville au ministère des Transports. Puis finalement, c'était surtout un « je veux pas quelqu'un pas de la région de Québec ».
Et au fond, pourquoi je pensais à M. Drainville au transport? Oui. Parce que je me dis, si on veut avoir encore quelques chances de voir se poursuivre la planification pour le lien autoroutier, ça prend des ministres qui y croient. Alors, si on avait nommé un ministre de Montréal au ministère des Transports, je vous dirais c'est fini, on n'en parle même plus.
Gilles Laulier qui dit « Si on avait nommé un ministre de Montréal au ministère des Transports, c'est fini, on n'y croit même plus. » Là, finalement, c'est Jonathan Julien qui a été nommé. C'est un député de la région de Québec. C'est même l'ancien ministre responsable de la capitale nationale. Mais Gilles Laulier qui dit que si le ministre des Transports avait été un député de Montréal, on n'y croirait même plus au troisième lien. Là, semble avoir de l'optimisme plus que bien des auditeurs. Oui, en effet, parce qu'à toutes les fois qu'on en parle du projet de troisième lien, on reçoit des textos. D'ailleurs, 418-971-1021 par texto. Y croyez-vous plus au projet de troisième lien Québec-Lévis qui va se réaliser grâce au fait que c'est un gars de Québec qui s'en va au transport, puis que à l'environnement, Bernard Drainville va peut-être être tenté de faire passer des affaires pour que ça devienne plus facile de construire un troisième lien Québec-Lévis malgré le fait qu'il faut respecter des critères environnementaux? 418-971-1021, croyez-vous plus au projet de troisième lien Québec-Lévis maintenant qu'il y a une gang de Québec qui va pouvoir travailler ensemble là-dessus? Gilles Laulier qui en avait clairement contre Montréal hier quand il parlait à l'équipe du Retour, mais il y en a identifié un autre problème pour le troisième lien.
Ben, il y a là le problème sur le lien autoroutier. Vous voyez, le gouvernement avait une chance inouïe. Il y avait 105-110% de la population qui était en faveur. On sait qu'il doit se faire, ce lien autoroutier-là. Il faut arrêter de tenir compte des détracteurs. C'est la gauche. C'est pas plus compliqué que ça. Alors donc, mais à partir de ce moment-là, je m'excuse, mais souvent, ces gens-là, au niveau politique, ils peuvent représenter juste à 15% des votes, tu sais, je veux dire, dans une élection. Alors, on ne doit pas gérer en fonction de ces minorités-là, on doit gérer en fonction d'une majorité.
Fait que le problème pour le troisième lien, c'est Montréal, puis c'est la gauche, Gilles Laulier, le maire de Lévis, qui est assez clair là-dessus. Parce que pour lui, ben les ministres de la CAQ, ils y croient.
Maintenant qu'ils sont en position et qu'ils y croient au projet, Jean-François Simard m'en parle, Martine Biron, j'ai rencontré en fin de semaine, lors de concours équestre, elle m'a dit « pas de problème, moi je vais continuer à me battre pour le lien autoroutier ». Maintenant, à partir de maintenant, si le premier ministre veut respecter les prochaines étapes, donc la sélection d'un concepteur et d'un constructeur en 2026, est-ce qu'il ne vient pas de créer l'équipe en lui donnant le mandat de faire ça?
Fait qu'est-ce que les ministres qui ont été nommés hier dans la région de Québec sont comme une super équipe pour mener à terme le projet de troisième lien Québec-Lévis? Je le répète, là, semblait y croire. Gilles Laulier semblait même enthousiaste là-dessus, alors que les auditeurs par texto, c'est très drôle, les textos qu'on reçoit. Sylvain qui dit « Je crois plus au retour des Nordiques qu'au troisième lien ». On a Christo, « J'y crois comme pour les Nordiques ». Et on a Vincent, « Non, les Nordiques vont revenir avant ». Trois textos de suite qui sont rentrés en quelques secondes pour faire un lien entre le troisième lien et les Nordiques. On voit qu'on a comme les mêmes références. Hein? Fait que c'était des extraits de l'entrevue de Gilles Laulier, maire de Lévis, avec l'équipe de Gravel dans le retour hier. Je vous rappelle que dans les minutes précédentes, on jasait avec Michel Cetlacoué, qui est député libéral de Mont-Royal-Outremont, leader parlementaire du Parti libéral du Québec. On discutait du remaniement ministériel de François Legault. Dans les prochaines minutes, dans le Point de Max, il est 10h56. Ça veut dire qu'il est bientôt 11h, puis 11h, ben c'est le grand rendez-vous avec Audrey Pinchot pour l'Open Mic. Le Point de Max. Encore une heure à faire ensemble cette semaine dans le Point de Max, parce que demain, ben, je me sauve du côté de Montréal. En fait, c'est pas vrai. Je me sauve à Montréal ce soir. Je risque de revenir direct après le show de Falling in Reverse et Hollywood Undead, mais à l'heure à laquelle je vais revenir, tant qu'à pas être là dans le show du matin, tout ça, je me suis dit, hey, regarde, on va laisser la place à quelqu'un d'autre là, de s'amuser dans le Point de Max, et c'est Pascal CV qui va prendre en charge le Point de Max. Fait que ça va genre être un Point de Max mêlé avec l'heure CV, fait que vous allez être bien content d'entendre Pascal, j'en suis persuadé. Présentement, à Québec, c'est un 20 degrés, c'est pas mal le maximum. Là, on pourrait aller chercher un petit degré supplémentaire dans les prochaines heures avec 60% de possibilité d'averse, mais comme je disais tantôt, là, si ce 60% de possibilité d'averse-là, c'est le petit compromis à faire pour la semaine qu'on va avoir par la suite, on va le prendre avec plaisir parce que demain, c'est du gros soleil avec 21, samedi, gros soleil 22, dimanche, gros soleil 22, lundi, gros soleil 22. Vous comprenez un petit peu le principe, c'est ça jusqu'à temps qu'on voit plus au bout de l'écran d'ordinateur. Ça va être une tabarouette de belles semaines et de beaux week-ends en passant aussi pour profiter entre autres des festivals Envol et Macadam et Phono dans le coin de l'Université Laval, fait que on va pouvoir s'amuser. Demain, c'est Pascal CV, comme je vous le disais, qui va prendre en charge le Point de Max, mais quand même, on va garder les bonnes habitudes. Audrey Pinchot, tu vas passer voir Pascal CV à 11h?
Non, ça me tente pas en tout.
C'est vrai?
Franchement, c'est sûr que je vais être là. C'est sûr que je vais être là.
Good. Avez-vous jasé un peu? Ah, ben, dans le fond, c'est Mademoiselle V qui va être là.
C'est Mademoiselle V, c'est Val qui vient faire son tour avec un sujet qui touche encore, j'ai envie de dire, l'actualité, peut-être le quotidien des hommes. On va parler d'andropause, les boys.
Fait que là, trois girls dans le Point de Max, sans Max, qui vont parler d'andropause.
Oui, mais toi, tout ça promet. T'es tellement pas rendu là dans ta vie, tu comptes un peu comme une.
Idéalement,
mais vous allez faire office, évidemment, de les auditeurs de la gente masculine dans cette discussion-là, parce qu'on n'a aucune idée de quoi on parle quand on parle d'andropause, sauf Mademoiselle V, évidemment. Fait que ça va être le sujet de demain.
Quand tu dis sauf Mademoiselle V, c'est en raison de ses études et son juste précisé.
Tout compris.
Exact. et là, ben, avant d'être demain, on est aujourd'hui, Audrey?
Oui, bien vu.
De quoi on jase? Parce que là, il y a du monde en studio. Là. T'es pas venue
oui,
seule.
Oui, non, je suis pas venue seule. Je suis venue accompagnée. Puis je suis quand même vraiment excitée parce que c'est une discussion qu'on devait avoir il y a quelques mois déjà. J'ai envie de te poser deux questions. Un, qu'est-ce que tu penses de notre système de santé?
Merveilleux. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ça coûte pas assez cher.
J'aime l'ironie.
Au public.
Non, qu'est-ce que tu penses des CHSLD?
CHSLD, on dirait qu'on a tellement dans notre mémoire ce qui s'est passé pendant la pandémie que c'est très négatif ce qu'on a en tête. Puis on a l'impression que le gouvernement n'a pas assez pris soin de nos CHSLD. Non, mais dans les deux cas, mettons qu'on niaise pas, c'est sûr qu'on... C'est rare qu'on parle du positif dans nos hôpitaux, dans notre système de santé.
C'est très rare.
Dans...
Je fais partie des gens, pour être 100% transparente avec vous, qui ont longtemps dit, puis qui ont encore un peu ce discours-là de « Hey, moi, j'ai pas envie que mes parents finissent en CHSLD, je veux pas me ramasser là. » Parce que, justement, il y a tellement de oui-dire, on entend tellement de choses, beaucoup du négatif, parce que c'est plate à dire, mais dans les médias, ce qu'on vous sort, c'est un peu ça, le négatif, malheureusement. T'sais, c'est quand il se passe des choses, puis c'est rare que c'est positif. On peut prendre la journée d'aujourd'hui comme exemple. Fait que j'ai toujours eu un peu cette perception-là, puis c'est comme une perception que j'avais envie de défaire pour moi, mais pour vous aussi, les auditeurs. Puis je sais qu'on a tellement de travailleurs de la santé dans notre auditoire. Fait 88-971-101, si vous avez des questions, des témoignages, peu importe, la porte est complètement ouverte. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je veux parler avec un travailleur ou une travailleuse de la santé dans l'open mic. Puis ce matin, on reçoit une infirmière auxiliaire qui aime sa job, qui est heureux dans ce qu'il fait, qui a été salué pour ça même, qui a comme objectif de faire sourire ses patients à travers la maladie, la vieillesse. Puis en mai dernier, ben, on devait se jaser. Il a été salué à l'Assemblée nationale. Là, pour
pas
son,
n'importe
son travail.
Qui.
C'est pas n'importe qui. Donc ce matin, c'est parti remise avec Hugues Armand Assé, qui est infirmier auxiliaire au centre d'hébergement Christ III.
L'open mic. Just in time for open mic. Dans le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Hugues Armand Assé, infirmier auxiliaire, t'es un gars heureux dans ta job, t'aimes ton milieu, dans un milieu où, on le dit, il y a beaucoup de négatifs. Comment tu fais?
Mais comment je fais avant tout? Je voulais, par ma voix, remercier déjà Audrey. À travers Audrey, c'est réellement aussi cette belle chaîne de radio qui est beaucoup écoutée par les Québécois. Et à vous, je vous dis bonjour. Alors, oui. Je suis Hugues Armand. Je me prénomme Hugues Armand. Mon nom de famille, c'est Assé. Assé, c'est A2SE à Saint-Aigu. Comme j'ai assez d'amour pour ma profession, hein? Assez d'amour pour mes résidents, assez d'amour pour mes collègues et assez d'amour pour ceux qui nous suivent. Donc aujourd'hui, en tout cas, je vous remercie. Et représentant, on va dire un peu le corps, effectivement, de cette profession, nous allons jaser un peu et puis, bon, montrer okay, à la population, à nos auditeurs, que c'est une belle profession.
Il y a du beau.
C'est vrai que, comme on l'avait dit tantôt dans l'introduction, qu'il y avait quand même des mauvais jours, ok, d'accord, que nous avons vécu, hein, des huit dires. Oui, il faut reconnaître, parce qu'il faut quand même reconnaître quand même d'où on vient et puis savoir effectivement où on part. Et moi, je suis très heureux parce que nous sommes dites la nouvelle génération qui viendront effectivement prendre, effectivement...
Changer cette image-là.
Et aujourd'hui, on est tout heureux. On vient à peine effectivement de finir cette belle cérémonie de son 15e anniversaire. Et on a eu beaucoup de retours. C'est vrai, effectivement, il y a encore beaucoup à faire, mais nous pouvons déjà dire merci.
Ça sonne positif.
Ça sonne positif, c'est ça.
Je pense que s'il y a quelque chose de positif, puis tu sais, on parlait de l'image qui peut être négative envers le système de santé, les CHSLD, je pense que généralement, les Québécois sont quand même capables de faire la différence entre le système de santé et les employés de santé. Puis je pense qu'on est capable d'avoir le jugement de dire, OK, oui, le système peut aller mal par bout, mais les employés font leur gros possible. C'est des tabarouettes de bonnes personnes qui font ça dans des situations qui sont pas toujours faciles pour les bonnes raisons.
C'est bien dit. Alors, je dirais que je suis peut-être un grain de sel, mais un grain de sel éventuellement qui est représenté par... Plusieurs résidences. On a encore beaucoup plus de monde comme ça. C'est vrai qu'éventuellement, j'ai été pris comme ça, on va dire, sur une belle soupe, OK? Mais les Hugues Armand, il y en a beaucoup.
Il y en a plusieurs.
Et ils sont en train de venir. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que nos éditeurs, la population, s'est fait la différence entre le système et puis les hommes de profession. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître aussi, oui, le système n'est pas bon, mais il faut aussi reconnaître quand même que le système aussi fait beaucoup d'efforts. Parce que je suis aussi un exemple. Pourquoi? Parce que oui, on avait beaucoup parlé de cette allomanie-là. Et moi, je me rappelle qu'au moment de la COVID, c'était vraiment très difficile.
Oui.
Et voilà que le gouvernement, effectivement, aurait mis en place des systèmes. Et c'est là que moi, j'ai été effectivement repêché.
Donc, OK, fait que ça fait à peu près 5 ans.
Ça fait déjà 5 ans.
Que tu es infirmier auxiliaire.
Voilà, c'est ça. Non, même pas, disons, 5 ans que je suis dans la profession de la santé.
OK.
Voilà. Donc, il y avait vraiment... pas mal de difficultés à cette époque-là. Et en son temps, l'Ego, effectivement, a lancé l'appel pour dire qu'il demandait à la population qui pourrait éventuellement venir prêter mes fautes à ce corps de métier pour tenter quand même de sauver la population.
Puis te lever la main à ce moment-là.
Et moi, j'ai levé la main et voilà, j'ai fait mes entrevues.
Ah ouais.
Et ils m'ont retenu et j'étais d'abord préposé.
OK, fait que tu étais déjà un peu dans le milieu.
C'est ça, dans le milieu. Et c'est juste après ça que, bon, ben, avec... l'amour que j'avais pour mes résidents, pour ce métier et surtout pour mes professeurs. Il faut dire aussi parce que le gouvernement a mis en place quand même de bons moyens en partenariat avec des écoles de la place, en partenariat avec l'OIAC, okay, avec l'USUS et ce qui aujourd'hui a donné des bonnes personnes comme moi.
Puis c'est quoi la différence peut-être juste pour les gens là, entre, tu sais, t'as passé de préposé à infirmier auxiliaire, c'est quoi les plus grandes différences dans ton quotidien au niveau du travail mettons?
Ben il faut dire que de genre pour mieux redéfinir et puis pour aider aussi on va dire les auditeurs à mieux comprendre, l'infirmier auxiliaire c'est effectivement cette personne là qui fait partie de l'équipe des professionnels de la santé. En l'occurrence l'auxiliaire infirmier c'est celui effectivement qui administre les soins. OK, qui prodigue effectivement des traitements, qui éduque les patients et les familles. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est cette personne-là qui s'occupe de prendre les signes vitaux, de préparer, on va dire, et d'administrer les médicaments, d'aider à l'hygiène et au confort des patients. Quant effectivement aux préposés, ce sont vraiment nos yeux. C'est eux-là effectivement qui viennent aider, on va dire, à l'alimentation, aider à l'hygiène, qui sont vraiment au quotidien effectivement de nos résidents. Et donc nous, on vient en appui. Et au-delà de nous, nous avons aussi nos infirmiers, nous avons aussi d'autres professionnels avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment toute cette équipe-là, okay, qui aujourd'hui, effectivement, donne un bon sourire à l'équipe, effectivement, de nos résidents.
C'est comment de travailler dans un CHSLD? Peux-tu nous amener peut-être dans ton univers, les types de patients? Je veux dire, souvent, on a l'impression que dans un CHSLD, c'est, la fin de vie. Les gens qui sont plus vieux, qui ont des maladies comme l'Alzheimer, qui sont plus autonomes. Si tu peux peut-être nous amener un peu dans ton quotidien, j'aimerais ça.
Bien, c'est bien. Déjà, il faut dire que... ce qui me motive le plus, effectivement, déjà avant de m'y rendre au travail, c'est déjà mon amour déjà pour les personnes âgées. Donc ça part d'abord de là déjà. C'est vraiment ce boom là d'encouragement que j'ai déjà. Secondo, quand j'arrive effectivement dans ce quotidien, l'une de mes principautés, je pars d'abord dire d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour à mes collègues, bonjour à l'équipe déjà qui sort, et surtout bonjour, un bonjour individuel à tous mes résidents. C'est très important.
C'est drôle parce qu'on en parle souvent en onde, qu'on a tellement plus assez de connexions humaines au quotidien. On prend pas le temps de dire quelque chose de simple comme bonjour.
Ben c'est ça. Et c'est ça qui vient faire le miracle de ma journée. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment ma manière de rentrer en connexion avec déjà ces résidents-là. N'oublions pas surtout que ces résidents, ce sont nos parents dont nous rendons visite. Nous, les professionnels, parce qu'ils sont chez eux. Tantôt, vous avez dit, c'est des personnes qui viennent parce que la mobilité, éventuellement, n'est pas du jour. L'état de santé aussi est difficile. Ils sont plus autonomes.
Ils ont besoin d'accompagnement.
Ben voilà. Donc, le système, effectivement, trouve cette solution-là, qui sont les centres d'hébergement, où ils pourront, effectivement, passer le reste de leur vie. OK, c'est vrai que c'est difficile à entendre, mais... C'est quand même agréable parce que...
Mais justement, trouvez-vous qu'il y a de quoi de beau là-dedans d'accompagner des personnes dans leur fin de vie? Puis tu sais, fin de vie, c'est sûr qu'on le voit plus négativement. C'est triste, entre guillemets, quelqu'un qui décède, mais tout le monde ici va mourir un jour. Mais c'est une étape qui est particulière.
Elle est particulière, pourquoi? Parce que imaginez-vous, là aujourd'hui, on est tout heureux. Là, vous faites une émission, vous avez votre boulot, vous êtes très content là. Oui. Vous avez eu un vécu. Demain, vous vous retrouvez éventuellement dans ce genre de cadre-là. Est-ce qu'il faudrait éventuellement vous prendre comme une tomate
Vous prendre de haut,
comme un fruit? Je ne pense pas. C'est vraiment des personnes qu'on doit respecter. Ce sont qui ont bâti notre pays. Oui. Alors, je pense qu'il y a quand même un minimum. Mais ce minimum-là, c'est réellement de les accompagner à terminer cette vie-là.
Est-ce que tu trouves qu'on respecte assez ou qu'on prend assez soin de nos aînés au Québec?
Nous sommes en train d'améliorer. Il faut le dire.
T'es positif.
Ben oui, c'est ça. Nous sommes en train d'améliorer. Parce que dire comme ça aux auditeurs que oui...
Ce serait mentir.
Ce serait mentir un peu. Nous sommes en train d'améliorer parce que nous venons d'une histoire. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement, l'OIA, que je salue ici du passage, le CIUS, effectivement, ils mettent tout en œuvre. La communication en bac au maximum, le temps de faire comprendre d'abord à nous-mêmes, qui sommes d'abord les employés, le rôle que nous devons apporter,
Mais oui, parce que c'est une vocation, votre métier. J'ai le sentiment que pour être auprès de personnes âgées qui ont plus toute leur mobilité, toute leur tête, faut un grand cœur en partant, faut des aptitudes sociales, puis il faut de la patience, parce que c'est sûr que ça doit pas être facile tous les jours, là. C'est sûr que ça se peut que M. Tremblay soit bien grognon des fois, puis qu'il te tape sur le chou, puis que hey, mon Dieu Seigneur, que t'as envie de poursuivre ta vie, puis que la sienne t'importe peu. Mais M. Tremblay, il a un passé. Il a probablement eu des enfants, il a eu une famille, il a vécu comme on vit en ce moment. Et moi, je vais te dire, également, moi, ça m'effraie, là. Ça m'effraie des fois de vieillir, puis de me ramasser dans cette situation-là.
Prenons l'exemple, effectivement, de M. Tremblay, qui, lui, effectivement, était, par exemple, un directeur d'école. OK. Et avec la maladie, par exemple, de l'Alzheimer, effectivement, il ne se souvient pas. Oui. C'est comme des flashs. Moi, quand je vais dans son histoire de vie, que je récupère ça, je vois sa belle épouse, peut-être qu'elle est décédée, je vois ses enfants, il y a des photos. Mon rôle aussi, c'est de lui permettre, effectivement, de se souvenir de ça.
Donc, ça va plus loin que les soins.
Ça va plus loin que les soins. Et je pense même que c'est ça qui est le plus important. rassurer, sécuriser effectivement cette personne-là qui, elle, au départ, quand elle rentre, elle est démunie de tout, qui avait effectivement une grande maison hier, qui avait son chat, qui avait sa famille, qui était entourée de ses petits-enfants, et subitement, pour X ou XY, il se retrouve dans un endroit vraiment à pratiquement 3 mètres carrés. Oui. C'est pas évident. Donc, il rentre vraiment dans le déni, c'est vraiment difficile de l'accepter. Et comment tu fais éventuellement pour qu'il puisse se rendre compte qu'il n'a pas été rejeté? Et non, c'est nous qui sommes au quotidien. Les enfants, ils arrivent quand ils peuvent. Madame, elle a pratiquement aussi le même âge que lui. Mm-hmm. Elle ne peut pas se passer tout le temps. Non, c'est nous qui sommes au quotidien. Et moi, comme je dis très souvent, je les considère comme mes parents.
Vous devenez la famille un peu.
Mais nous sommes la famille. On ne devient pas. Nous sommes la famille. Il faudrait que chacun de nous, effectivement, s'intègre. Parce que si on les prend comme des objets, on les prend comme des résidents simplement, on va simplement faire seulement que notre boulot. Mm-hmm. Mais notre boulot nous demande d'aller au-delà, d'être humain. Alors c'est pour ça qu'effectivement, il faut qu'on rentre effectivement dans son quotidien, rentre dans son passé et lui permettre effectivement de sourire. Quand je dis souvent que quand je trouve le sourire d'un résident, pour moi ça fait ma journée. Mais c'est pas faux.
C'est la paye.
C'est pas faux. C'est vrai que j'ai une rémunération parce que j'ai eu un métier, parce que je travaille. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui peut me permettre d'être content, d'être heureux, d'être dans le bonheur? C'est réellement de voir le sourire de mon patient. S'il a le sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en sécurité. Ça veut dire qu'il a confiance en moi.
Il est bien.
Il est bien. Mais voilà ce que je recherche. Et quand je sors de là, ben je vous dis, mais je dors bien. Je ne fais même pas de rêve quand je sors de là.
Dors tranquille.
Voilà un peu. Voilà un peu cette journée-là que je me donne comme objectif et je réussis. C'est vrai que c'est pas tous les jours ne sont pas pareils. On a aussi souvent des bananes tremblées qui sont quand même un peu difficiles. OK, mais...
Essayez-vous de les faire rire? Est-ce que ça arrive des mauvaises journées dans la vie d'un Eugarman? Est-ce qu'il y en a des fois où...
Oui, ça arrive, il faut le dire. Il faut le dire, ça arrive, mais en même temps, il faut savoir aussi le changer. D'accord? Parce que ces personnes-là, souvent, même quand... ils te lancent souvent des mots qui ne sont pas très, très jolis. Hein? OK, d'accord? Il ne faut pas forcément en sourire, certes, mais faites diversion. Simplement, c'est l'une, effectivement, des méthodes que nous avons apprises lors de notre formation. C'est pour ça qu'on est formé. On n'est pas pris sur le tas. Donc, on a une formation. Alors, il faut pouvoir mettre en place tous ces manivelles-là, toutes ces recettes qu'on a reçues. Mais ça ne vient pas comme ça parce que chaque résident ou chaque patient a une réalité. Ils n'ont pas tous la même. Ils sont différents. Donc, il faut adopter une approche différente d'une à une autre personne. Et pour ça, je pense que moi, je suis né pour ça. Voilà. Moi, c'est naturel et puis moi, ça coule.
Et ça se sent. Ouais, je tiens à dire, là, je suis comme touchée, on dirait, de te recevoir ce matin puis de pouvoir en parler. C'est appris dans les études, ça, le côté humain. Je ne savais pas, moi, dans ma tête, on vous apprenait à prodiguer les soins, mais je ne pensais pas qu'on vous apprenait comment gérer l'humain, en fait, qui est probablement le plus difficile dans tout ça.
Ben oui, c'est-à-dire que dans cette formation, effectivement, au-delà de tout ce qui pourrait être professionnel, mais on a aussi le côté aussi humain aussi qu'on apprend. Mais ce qui pourra faire aussi le plus aussi, c'est aussi ces étudiants-là qui sont en formation à être infirmières, infirmières auxiliaires, qui peuvent aussi avoir sur eux leur passé. Moi, par exemple, j'ai été vraiment entouré effectivement de mes grands-parents. Okay? J'ai eu vraiment la chance vraiment d'être entouré de beaucoup d'amour. Donc, j'ai grandi avec ça. Et moi, je ne veux pas de différence. Même au-delà de la profession, je suis une personne qui est très ouverte. C'est peut-être un peu dangereux, peut-être pour ma sécurité à moi, mais je suis comme ça. Je souris avec tout le monde. Bon, maintenant, derrière, si tu ne souris pas contre moi, ce n'est pas grave. Mais bon, je veux t'apporter du bonheur. Je veux t'apporter du sourire. Je suis né comme ça. Donc, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, élevé. Donc, quand je viens et que je viens rajouter d'autres paliers pour la formation continue, parce que le CIS aussi organise aussi, effectivement, des formations continues, le temps de rafraîchir toujours, parce que il y a des personnes là qui sont là pratiquement depuis 15 ans, 10 ans.
Les choses changent.
Les choses changent.
Ou souvent, c'est bon à savoir.
Ou souvent, si... on ne fait pas ce côté de rafraîchissement, ça tombe un peu comme si c'était de la routine. Donc, nos responsables veillent à ça. Donc, on a des formations continues, OK, et nous sommes obligés, par rapport à l'ordre, de faire 10 heures de formation chaque 2 années, minimum 10 heures. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment en alerte maximum. Et c'est ce que nous, nouvelle génération, nous voulons effectivement inculquer à nos collègues et surtout aux prochains étudiants qui arrivent pour que, effectivement, nous puissions changer la donne.
Justement, toi t'es, on le voit depuis tantôt, t'es fait pour ça. On le sent, t'es vraiment
si
à,
tu le dis, si tu le dis.
Place.
Non, 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 je te le dis.
ça doit arriver que t'en vois arriver qui ont fait leur formation puis qui auraient les habiletés pour faire la job, mais qui se rendent compte qu'ils sont pas faits pour ça. T'en vois-tu passer pas mal?
Bien, on en voit passer pas mal. C'est même pour ça que par moment, je me permets quand même de coacher aussi. C'est un collègue ou c'est un ami, effectivement, qui souhaiterait avoir nos opinions ou les orienter. Alors, ça ne prend pas seulement pour des, je vais dire pour des personnes qui sont simplement intelligentes ou qui veulent le faire parce qu'ils ont entendu dire de leurs amis ou d'une sœur ou même de sa conjointe ou du genre style, non, mais au Québec ou au Canada, il y a beaucoup d'emplois au niveau de la santé. Il ne faut pas directement prendre des décisions comme ça. Non, ça prend effectivement un coaching, ça prend vraiment, je veux dire, une certitude. Et pour ça, je pense que oui, l'école ne donne pas forcément ça. C'est quoi tes objectifs déjà? Donc, il y a certaines personnes... Ben apparemment, comme je n'arrive pas vraiment à avoir du boulot, ben...
En santé, il y a de la santé, job,
il y a de la job,
aller.
Il faut qu'il y aille. Et quand tu arrives et que tu ne te sens pas, mais tu fais des missions. Ou tu ne fais pas ton boulot comme il se doit. Donc, pour ces personnes-là, je pense qu'il y a aussi éventuellement nos chefs d'unité, nos responsables qui nous alertent par moment. On fait des caucus, on fait des animations pour tenter quand même d'améliorer nos quotidiens. Ce n'est pas chose facile, il faut le dire. Mais hélas, nous sommes appelés pour ça et il faut qu'on avance.
As-tu toujours été dans le domaine de la santé? Tu étais préposé avant la pandémie, avant de prendre la formation pour devenir infirmier auxiliaire. Mais est-ce que c'est ce que tu as toujours fait?
Non, le dominateur commun, c'est génial. Hein. Rapidement, pendant 2 secondes, je suis ingénieur commercial.
Okay.
D'accord, hein? Dans mon pays, donc je suis un Africain d'origine ivoirienne, donc c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, j'ai travaillé pendant 14 ans, ok, dans les télécoms où j'étais effectivement ingénieur commercial. Alors, le dominateur commun, c'est quoi aujourd'hui avec la santé? C'est que simplement, je devais offrir des solutions et des services à la clientèle. Ok, donc qui dit clientèle, ça me demandait effectivement d'avoir une écoute active,
oui.
Ok, et d'apporter une solution et d'apporter un sourire. Effectivement à mon patient, parce que si je donne effectivement une solution clé en main à mon client, ben, c'est son entreprise éventuellement qui trouve du sourire.
Oui. Qui va... Tu vois un lien quand même entre les deux.
Il y a un lien. Donc, sortant de là, quand je suis arrivé par ici, après, je me suis retrouvé avec des enfants parce que j'étais aussi éducateur quand je suis arrivé par là.
OK.
Avant vraiment de trouver, on va dire, mon équilibre là aujourd'hui en tant qu'infirmière auxiliaire, mais je suis passé quand même dans une école de la place sans publicité aucune et j'ai été éducateur durant presque pratiquement 2 années.
Ça fait combien de temps que tu es au Québec?
Ça fait maintenant 4 ans que je suis là.
4 ans?
4 ans que je suis là.
Wow!
OK. Alors, donc, vous voyez, là, ces clientèles, c'était des enfants. Mais j'adorais les enfants. Les enfants m'aimaient comme pas possible. Quand je passais dans le corridor comme ça, ça criait « Papa Armand! Papa Armand! Oh! Papa Armand! » Mais parce que c'était naturel pour moi.
Ouais.
Et puis bon, de vous en moi, de la petite oreille, il y avait ces collègues qui n'étaient pas contents. Parce qu'ils avaient seulement que des yeux pour moi. Simplement parce que, bon...
jaloux.
Mais t'as une belle énergie.
Tu as dit le mot, c'est ça. Peut-être une belle énergie pour eux. Mais tous les enfants, quand on parlait de la récréation, tout le monde tournait autour de moi. Les enfants de ma classe allaient aussi parler de moi. Chacun voulait savoir qui j'étais. Bref, pour dire que, vous voyez, le domaine commun, c'est la clientèle. Déjà, au niveau de la profession où j'étais hier, c'était les clients qu'il fallait, les entreprises que j'avais. Ensuite, après, c'était maintenant les enfants. Aujourd'hui, je reviens éventuellement dans la santé. C'est quoi mes clientèles? C'est encore des personnes.
Ouais.
C'est pas des robots.
C'est l'humain.
C'est l'humain, déjà. Donc, quand tu t'imagines un peu, il faut être attentif vis-à-vis.
Tu sais, ce matin, on parle, pour ceux qui viennent d'arriver en passant, là, ce matin, on parle du domaine de la santé, du métier d'infirmier auxiliaire avec Hugues Armand Assé. Puis, je trouve ça fascinant parce que au-delà de la discussion qu'on a, on dirait que ce que je ressens quand je t'écoute, Hugues Armand, c'est le fait d'être capable de trouver la profession pour toi dans vie. Tu sais, le fait d'être capable de trouver ce que tu aimes faire, à quel point ça peut changer ton attitude au quotidien, à quel point ça peut te rendre bien comme humain, parce que visiblement, il y a des gens qui sont pas bien dans ce qu'ils font, puis probablement que ça a un impact sur leur façon de faire leur travail au day-to-day, tu sais. Fait que de voir quelqu'un comme toi qui est tombé sur son X, on dirait que ça me fait vraiment sourire. J'ai envie de te demander comment tu fais pour te protéger émotionnellement avec toute la souffrance que tu côtoies, parce que toi, t'apportes du bonheur, tu le dis, là, les bons jours, t'essaies de faire rire, t'essaies d'apporter du bonheur à ces patients-là que tu côtoies au quotidien, mais c'est ta batterie qui se vide, c'est ton énergie que tu donnes pour donner du bonheur aux autres, tu sais. Comment tu fais pour te protéger émotionnellement à travers tout ça, puis quand même arriver heureux à la maison, puis garder le sourire, là, le petit bonheur présent, puis...
Si on prend le même exemple, on va dire, toi, Audrey, avec ton chum, avec tes enfants, ouais. Comment tu fais pour garder ton énergie? L'enfant n'a pas demandé. Il veut être aimé, il veut t'écouter, il veut toujours près de papa, de maman. Tu fais comment, même quand tu es brûlé? Mais tu ne fais pas sentir. Tu apportes toujours le sourire, toujours ta présence. Voilà, effectivement. Est-ce qu'on a un choix? Sur ce quoi, je ne pense pas qu'on a un choix.
OK, je trouve ça intéressant.
Si tu fais un choix en ce moment, tu mets en difficulté le résident, ouais. Qui, lui, est en paix d'autonomie. Et pour le résident, pour lui, là, Hugarman est sa béquille. Donc, si tu n'es pas là, mais il tombe. Donc, dans le quotidien, quand j'entends son nez, même si éventuellement je suis en train de passer les PLL, mon devoir est de courir parce que ma collègue est peut-être en train de travailler avec d'autres personnes, mais oui. Nous travaillons en harmonie. Donc, il faut que je cours, il faut que j'aille voir. Donc, voilà comment effectivement mon énergie finit. Mais si tu dois te mettre en tête que tu dois toujours baisser, mais tu vas t'aplatir. Voilà. Comment je fais pour me régénérer, c'est seulement de dire seulement que si je ne suis pas là, mon résident tombe. Donc là, directement, je me recharge à chaque jour.
Mais c'est une grosse pression quand même.
Quand tu aimes, il n'y a plus de pression. Quand tu aimes, il n'y a plus de pression. Quand tu rentres effectivement dans ton couloir, dans ton corridor, tu n'as pas à être égaré. Donc, tu n'as pas de pression parce que j'ai la sécurité, parce que je suis dans mon métier, je suis dans ce que j'aime. Je n'ai pas de doute en cela.
Ouais.
Donc, pour moi, il n'y a pas d'insécurité. Mais je fais plutôt l'effort éventuellement d'éviter que mon résident soit dans l'insécurité. C'est ça. Parce que mon boulot, c'est de lui permettre d'avoir un bon accompagnement. On lui doit cela. Ils ont travaillé pour ce pays. Mm-hmm. Aujourd'hui, même si les enfants n'arrivent pas à venir tous les jours, nous sommes là au quotidien.
Vous êtes la famille. Tu l'as dit, vous êtes la famille.
C'est ça.
J'ai envie de terminer. Max, avais-tu encore une question? Parce que j'aurais une question clé en terminant, on dirait.
C'est celle sur Christian Dubé?
Absolument.
Je me demandais si... Je me disais, c'est tellement beau, je sais même pas si on veut aller dans le politique puis venir mettre du nick.
Ben, en fait, je trouve qu'on peut le mettre positif parce que j'avais envie...
Essayons. Ça reste parce que c'est tellement beau. Ce que, on est,
je suis inspiré.
Mais pour vrai, puis je vais le dire, puis on finira avec cette question-là politique après parce qu'en effet, il doit y en avoir qui veulent entendre quand même la vie de quelqu'un comme toi qui est dans le système. Puis, mais tu sais, ce matin, on est tellement dans le lourd avec ce qui s'est passé aux États-Unis, Charlie Kirk hier, puis on en parle beaucoup, puis faut en parler, puis c'est important. Ces dernières, quoi, à peu près 30 minutes-là, font tellement du bien personnellement de voir quelqu'un Merci. De passionné comme ça. Puis par texto, c'est beaucoup entré, puis ça fait du bien. C'est ce que je voulais dire.
Il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui nous écrivent, puis d'auditeurs qui sont comme « Hey, c'est rare qu'on entend un segment positif sur le milieu de la santé. » Fait que je vais terminer avec cette question-là. Hugarman, si tu avais un micro ouvert devant Christian Dubé demain matin, tu lui dirais quoi?
Ben, je lui dirais d'abord et avant tout, déjà, merci. Déjà, parce que pour le ministre qu'il est, il fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse stabiliser et même améliorer l'état de la santé. Il faut quand même être reconnaissant. Mais en même temps aussi, lui dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans mon secteur, proprement dit, il nous faut de la relève. On ne va jamais cesser de le dire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. La clientèle que nous avons n'arrête pas d'accroître, mais le personnel, difficile effectivement d'accroître ces normes-là. Donc effectivement, de poursuivre ces élans, ces efforts, et de permettre qu'il y ait encore de la formation pour que des personnes comme moi puissent naître et apporter du sourire pour le bonheur de tous et de chacun.
On est resté dans le positif quand même.
Ça voilà. Tout est bon tellement sens, parfait. on a besoin de gens comme toi.
Beaucoup plus.
Je veux te le dire sincèrement. Je pensais jamais, mais ce matin, moi, dans ma tête, je m'en venais faire une entrevue sur le métier, sur le domaine. Je savais que ça allait être le fun, mais mon Dieu, je me sens quasiment inspirée.
Dans le sens, ça va-tu être beaucoup de négatif, de parler des difficultés?
Oui, parce que c'est ce qui ressort.
Oui.
C'est normal, le cerveau est programmé pour trouver ce qui fonctionne pas. On est fait comme
puis
ça.
Puis on l'entend tellement. On a commencé, en fait, comme ça, puis à faire la distinction. Puis je trouve ça important de le ramener. Mm-hmm. La distinction entre le système va peut-être pas super bien, mais les employés qui sont dedans... En majorité, c'est des passionnés qui travaillent fort en tabarouette parce que sinon, le système, imaginez à quel point il irait encore plus mal.
Puis, sais-tu quoi, Max? Ça me fait réfléchir, moi, d'entendre quelqu'un dire merci à Christian Dubé. Parce que c'est pas ce qu'on entend d'habitude.
mais le pire, je suis d'accord, tu sais, parce que pour vrai, Christian Dubé, là, on peut le critiquer sur bien des affaires. Il a l'air de quelqu'un qui veut vraiment changer les choses puis qui croit sincèrement à la réforme qu'il veut apporter.
De façon personnelle,
Je sais pas combien d'heures par semaine cet homme-là doit travailler.
Mais oui, c'est ça, il faut voir.
Puis lui, il a pas besoin de la politique, Christian Dubé. Lui, il est en politique parce que avec son expertise, il s'est dit hey, « je pense que la politique a besoin de moi puis je pense que je peux apporter quelque chose à la politique. »
Puis il essaye.
Puis au Québec,
il essaye. Et je voulais aussi, en plus de Christian, on s'est dit merci aussi à notre présidente de l'Ordre qui, elle aussi, se bat. Hein, Madame Carole. Donc, c'est vraiment une grande chaîne qui s'emboîte pour le bonheur des résidents. Donc, chacun à sa place, éventuellement, travaille fort. Donc, il faut vraiment dire merci à toutes ces personnes. Merci aussi, un clin d'œil aussi à tous mes professeurs d'établissement où j'ai fait ma formation, pour ne pas dire le nom, pour ne pas faire de jaloux, de publicité. Mais en tout cas, ils me rendront vraiment merci à vous. Et merci aussi à tous ces collègues-là que je représente parce que c'est vrai que je suis à la lumière, mais derrière moi, c'est vraiment toute une grande équipe effectivement, qui travaille, les préposés, les infirmiers comme moi, les infirmiers autorisés, les médecins et tout le corps professionnel. Vraiment, merci à vous.
Hugues Armand, nous, c'est à toi qu'on dit merci pour ton temps ce matin. Ça fait énormément réagir. Hugues Armand Assé, infirmier auxiliaire en CHSLD. Bonne journée, puis merci encore pour ton passage.
Merci à Dieu pour tout ce bon moment que nous avons passé ensemble.
Au retour, Pascal CV s'en vient. On parle de cartel du pain. En fin de semaine, samedi 13 septembre, manque pas ta chance d'assister au spectacle hommage Metallica symphonique par Anesthésia et l'Orchestre symphonique de Québec. C'est un grand retour au Québec pour Anesthésia après plus de 15 000 billets vendus pour son premier show en spectacle symphonique, rien de moins. Viens vivre ce nouveau show-là, c'est à partir de 79 $. Ça vaut la peine pour une méchante belle soirée. Il reste encore quelques billets en vente. Fais vite, c'est une seule représentation, puis après ça, c'est merci, bonsoir, ciao, bye. Hommage à Metallica symphonique, samedi 13 septembre. C'est dans deux jours. Dépêche-toi et billets en vente au grandtheatre.qc.ca.
Les 20-21.
Ce qu'on entend derrière en trame de fond, des beds, comme on dit dans la radio, préparé par l'ami Tommy Fontaine, c'est du Hollywood Undead. Puis c'est pour ça que je serai pas là demain, ce soir, du côté du Centre Bell. À Montréal, Hollywood Undead en première partie de Falling in Reverse. Et j'y serai sur le parterre dans le mosh pit. Parlant de mosh pit, pas besoin de s'en aller bien loin pour en avoir en fin de semaine parce qu'à Québec, ça commence ce soir, le festival Envol et Macadam 28e édition. Et ce soir, à l'Agora du Port de Québec, en collaboration avec Molson Export, c'est gratis pendant trois jours, du 11 au 13 septembre, la ville qui va vibrer au rythme de la musique alternative punk, metal, ska. Il y a des bands internationaux, mais il y a aussi des figures marquantes d'ici au Québec et des talents émergents, des belles découvertes à faire. Et ce soir, comme je vous disais, là, c'est gratuit à l'Agora. Mononc, Serge et Anonymous, Voivode, Martyr, JFK et Enfants Sauvages. Ça commence de bonne heure, genre 17h. Les portes ouvrent à 16h30. Puis pour ce qui est du festival en tant que tel, là, tout au long du week-end, c'est partout en ville. L'Anti, La Source, La Martinière, dans le coin de Charlebourg, au Scanner, le Knockout aussi. Chaque salle qui a sa propre vibe. Vendredi, samedi, Pennywise, Face to Face, The Interrupters, Streetlight Manifesto, les Planet Smashers. Plein d'activités gratuites aussi, dont le Game of Skate Exo. Tous les détails et la programmation, c'est au envolemacadam.com. C'est le festival rock à pas manquer dans les prochains jours à Québec. On a eu un tabarouette de beaux moments, là. Audrey Pinchot qui nous a offert ça avec son invitation du jour dans l'open mic. Un infirmière auxiliaire qui est passé nous voir puis qui nous a mis du bonheur dans cette journée-là alors que l'actualité c'est un peu lourd. Et d'ailleurs, dans la dernière heure ou à peu près, là, on a appris que le tueur de Charlie Kirk, son arme a été retrouvée. On est toujours à la recherche du tireur. On est en pleine chasse à l'homme là, du côté des États-Unis. L'arme qui a été retrouvée, est-ce que ça va nous permettre de mettre la main sur le tireur? C'est la question qu'on se pose un peu en ce moment, là, puis on va suivre ça évidemment dans les prochaines heures. Pascal CV, est-ce que toi, aujourd'hui, tu nous amènes du positif?
Mais là, j'ai grugé, j'ai cherché, j'ai fait un genre de tour complet de l'actualité, puis je me suis dit, non, je peux pas. Avec les dernières heures qu'on vient de vivre, avec tout l'épluchage que j'ai fait aux États-Unis dans les blogs, dans les rapports de nouvelles, dans les différentes stations, j'ai l'impression que tout le monde est un peu sous le choc, puis figé par l'actualité là, des dernières heures. Ça prend beaucoup de place. Fait que je dis, je vais aller chercher quelque chose de positif.
C'est-tu la blague de François Legault?
Non, c'est pas quand il essaie de faire une blague puis finalement, il fait pas la blague.
Peux-tu l'écouter?
Mais il fait un peu la blague.
Et la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, je me retiens pour pas faire une blague.
Mais... Il se retient, là. Il se retient.
Qu'on n'appellera pas Cruella.
Ah, il l'a fait. C'est pas assez retenu. Le rire
va être en charge. Non, sincèrement, on enchaîne.
J'ai goût de faire une blague.
Sincèrement, on enchaîne.
C'est lui-même qui se dit ça.
Parce que...
À lui-même.
J'ai le goût de faire une blague. Là. Je te le dis, Pascal, j'ai le goût. Là. Je la ferai pas.
Trop
une seconde
point.
Après. Qu'on n'appellera pas Cruella.
Ça va la
malaise général.
Il vient de donner un surnom pour tout le mandat de sa ministre.
Ouais.
Ça va être ça qui va rester pour le Conseil du Trésor. Hier, je voyais Sonia Lebel très active sur ses réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, là, en train de faire des vidéos de « Merci pour le 5 ans au Trésor ». Puis là, elle saute un peu vers l'éducation, puis elle se ramasse plus dans les endroits de chiffres, mais plutôt entre les murs des établissements scolaires. Ça m'a fait bien rire. On est là-dedans en ce moment avec le remaniement au provincial. Mais je vais vous parler de quelque chose qui vous concerne tous.
Tous.
Il n'y a pas personne, ouais, peut-être les cœliaques, là, mais il n'y a pas personne qui n'est pas considéré là-dedans. Puis encore là, peut-être que tu ne le savais pas, que tu ne pouvais pas manger de pain puis de gluten à un moment, fait que ça te concerne. Parce que toutes les personnes qui ont mangé du pain entre 2001 et 2021, pense-y.
J'avoue que vite de même...
C'est un bon 20 ans, là.
Okay. Ça concerne beaucoup de monde.
Toutes les personnes qui ont mangé du pain entre 2001 et 2021... On revient avec le recours collectif du cartel du pain. Une grosse histoire, une histoire qui, sur laquelle on surfe depuis des années. Là. Finalement, on aurait payé 1,50 $ de trop chaque pain qu'on a acheté pendant plusieurs années parce qu'il y avait un genre de consortium de 11 jazz puis on vend le pain à ce prix-là pour essayer de faire plus d'argent, mais qu'on ne soit pas en compétition avec d'autres marques.
Juste dire que le mot cartel, on l'associe beaucoup à la drogue et qu'à chaque fois que j'entends cartel du pain, ça me fait un petit peu rire.
Parce que tu dis, Colin, c'est sérieux.
Cartel du pain, on dirait que ça va pas ensemble, mais en effet, on s'est fait avoir.
Oui, c'est une association de groupements, là, en vue d'une action commune. Fait que c'est ça, un cartel. Dans ce cas-ci, ça s'applique, mais c'est le cartel du pain. Et puis c'est sérieux, là. Tout le monde, si vous comptez à quel point vous avez perdu de 1,50 $ à travers le temps, mettons que tu en achètes 2 par semaine pour ta famille depuis 20 ans, calcule le montant.
Ah, c'est haut, oui.
Et tout ça parce qu'on a manigancé dans votre dos. Puis là, maintenant, vous pouvez vous inscrire à cette indemnisation-là. Puis, c'est pas 2$, c'est pas 20$, c'est pas 25$ comme la fameuse carte cadeau Loblaws que vous avez eue à un moment. Là. C'est jusqu'à 100$ par personne qui a
quand
été évoquée devant le juge qui pourrait vous revenir dans les poches. L'heure du remboursement, mesdames et messieurs, est arrivée et c'est simple. Tu en vas au www.règlementpainquebec.ca. C'est super ça simple.
Ça aussi, le nom du site me fait... Règlement... Caroline, j'aime tout.
Règlementpainquebec.ca. Puis la date limite, c'est le 12 décembre. Là, faites-le tout de suite parce que vous allez oublier. Puis dans le temps des fêtes, ça va peut-être vous aider avec tous les achats qu'on a à faire. Il n'y a pas de preuve d'achat qui est requise. Fait que si tu cherches toutes tes factures de pain depuis 20 ans, laisse faire. Tu perds ton temps. T'en as pas besoin.
Ben, de toute façon, comme tu as dit, là, tout le monde a acheté du pain à un moment donné.
Hey, c'est un 100$ facile à mettre dans vos poches. Puis il y a Loblaw, je vous rappelle, en 2017, qui avait avoué, qui avait admis avec Maxi, Provigo, Pharmaprix, en fait, c'est la maison mère de toutes ces entreprises-là, qu'on avait eu, oui, un stratagème de fixation du prix du pain. Là. Ça avait été baptisé Convention 7-10. C'était sérieux, là. C'était sérieux, gang. Puis cette stratégie-là a été jugée illégale. Donc, ça aurait permis aux entreprises de s'en mettre plus dans les poches. Mais des plus, c'est des milliards de dollars.
Fait que là, en bout de ligne, là, Puis oui, le montant a l'air élevé, que tout le monde peut recevoir 100$. Mais en effet, c'est des milliards. Là. Si c'est 1,50 par pain, tu disais?
Oui.
Sur 20 ans?
Mm-hmm. Mais c'est ça, je dis, faites le
calcul.
Alors
que tout le monde achète du pain, c'est énormément d'argent.
C'est des milliards de dollars. Puis en 2017, on s'était entendu en fait pour verser 404 millions de dollars aux consommateurs. Puis c'était à raison d'une carte cadeau. Donc, tu avais 25 $ en carte cadeau qui arrivait chez toi. Puis c'était pour, au total, finalement, 500 millions. Là. Puis c'était au cabinet LPC Avocat, qui était membre du consortium canadien, qui pilotait le dossier. Il y en a beaucoup, si vous vous rappelez, qui avaient donné cette carte de 25 $-là à des organismes. Donc, il y a des organismes qui pouvaient aller acheter du pain, qui pouvaient nourrir les gens qui en avaient plus de besoin, comme ici, on pouvait penser à Moisson Québec, on peut penser à la Bouchée Généreuse. Mm-hmm. Les gens se disaient, 25 $, OK, mais sans plus. Maintenant, on est à 100 $. Allez-y directement. C'est un virement qui va tomber dans votre compte. Puis on sait aussi que vous allez vous partager 22 % des 404 millions de $ parce que il y a les autres provinces qui sont dans tout ça. Si vous avez déjà eu un recours, ça se peut qu'on enlève le 25 $ de votre 100 $, mais ça, va falloir qu'ils s'en rendent compte. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais quand même, c'est de l'argent facile dans vos poches, mesdames et messieurs. Puis ça m'a amené à me poser la question, y en a-t-il d'autres recours collectifs en ce moment qui sont intéressants? Sachez qu'il y a un site complet et ça a été monté par la Cour supérieure du Québec. C'est le registre des actions collectives en cours.
Puis tu peux toutes les voir, fait que là, tu peux faire le tour puis voir à quoi tu es éligible.
Exact. Est-ce que vous êtes concerné? Point d'interrogation.
Puis le pire, c'est que souvent, comme pour le pain, ça demande même pas de preuves.
Souvent.
T'sais, des fois, il y en a qui demandent des preuves, puis c'est bien correct aussi. Là.
Oui.
Mais des fois, c'est vraiment de l'argent qui traîne à terre.
Absolument. Donc là, si vous voulez aller voir si vous êtes admissible à un registre, faites-le. Il y a des demandes d'action collective qui sont en cours aussi. Si vous êtes fait voler votre voiture, rappelez-vous, il y a quelqu'un de Québec qui est en train de ramasser des preuves, qui est en train de ramasser des témoignages. Vous allez peut-être pouvoir être dédommagé à la toute fin. Mais ceux dont je vous parle, c'est vraiment sur le site de la Cour supérieure. Vous allez voir une liste des recours collectifs qui ont été récemment autorisés. Entre autres, pour les frais de livraison Uber, il y a une action collective qui a été autorisée contre Uber Ride et Uber Eats. Puis ça concerne les frais d'annulation. T'en as aussi pour la STM, donc le service de transport de Montréal, pour des recours qui ont été déposés pour des remboursements sur des abonnements en raison d'une grève. Ah! Ça peut être intéressant ici, là, à Québec, là, avec ce qu'on vient, on vient de vivre. Là. Puis ça vient d'être autorisé. C'est peut-être transposable à Québec. Action collective aussi qui a été autorisée contre le gouvernement du Québec, mesdames et messieurs. Et ça concerne les résidents des CHSLD qui ont connu des éclosions de COVID-19.
Il y en a une couple.
Il y en a quelques-uns. Aussi, frais illégaux chez les concessionnaires automobiles. Il y a des demandes qui ont été déposées. Ce n'est pas encore autorisé, mais contre des marchands de véhicules pour des frais illégaux ajoutés au contrat. Des petites vites qu'on vous passe sous le nez.
C'est où qu'on trouve tout ça, rappelle-nous?
C'est directement sur le site de la Cour supérieure du Québec, le registre des actions collectives.
Fait qu'allez voir, c'est de l'argent qui peut traîner à terre.
De l'argent qui dort dans un coffre et qui n'appartient pas aux gens qui ont ce coffre.
Le mot de la fin, Pascal CV.
Et la nouvelle présidente du Conseil du Trésor. Je me retiens pour pas faire une blague.
C'est pas bon.
Qu'on n'appellera pas Cruella.
T'es plus fort que lui.
Je sais pas si la blague, c'est le delivery qui est vraiment zéro. Clairement, il peut pas aller à l'École nationale de l'humour. Même à l'école, il est pas accepté.
Il y a le delivery, puis il y a le fait de dire que tu feras pas la blague. Puis de la livrer quelques secondes plus tard.
Je mettais ça dans le delivery.
Lui, il doit s'être dit, « est tellement bonne, j'ai pas le choix de la faire. » Finalement. Hey, demain, Pascal.
Oui.
T'es là dans le point de max.
C'est le point de max en max avec CV. Fait
que c'est comme le point de leur CV, genre. On peut faire un mix.
On peut faire un mix, si tu veux.
Fait que c'est-tu un peu déjà ce qui est au menu? Tantôt, on parlait avec Audrey Escola dès 11h pour l'open mic avec Mademoiselle V.
Absolument.
Trois girls qui prennent le contrôle du point de max.
Puis on va parler d'Andropause.
Ça, c'est parfait. Puis j'ai fait valoir le point à Audrey. Ben là, trois filles qui parlent d'Andropause. Puis elle m'a comme dit, ouais, Max, pas sûr que t'es mieux équipé que nous à ton âge pour parler d'Andropause nécessairement.
Elle a un excellent point. Elle a un excellent point.
J'ai comme fait un peu raison.
Sinon, mon plan de match est quand même fait. La seule chose, c'est qu'avec ce qui vient de se passer,
Ça peut
avec
bouger,
la
ouais.
semaine en actualité. Mm-hmm. On se laisse toujours le droit d'y aller avec frivolité.
C'est important, la radio, d'être sur l'actualité du moment. Merci beaucoup, Pascal.
Bon congé.
Merci beaucoup d'avoir été là dans cette deuxième semaine du Point de Max à Boulevard 101. Les émissions qui sont disponibles en réécoute au blvd.fm et sur l'application Boulevard. Je vous invite d'ailleurs à télécharger l'app Boulevard dans sa nouvelle mouture mise à jour. Nous, on va se retrouver donc lundi 6h dans Marceau le matin et dès 10h aussi pour le Point de Max. Mais soyez là demain, là. C'est Pascal, mais le Point de Max va être super bon. Pareil, salut, ciao, là!